Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat, comme tous les soirs, sur France Culture, entre 18h20 et 19h. À l'ordre du jour ce soir, violence sexuelle, faut-il être puissante pour être entendue? L'enquête dans Mediapart de Marine Turki sur les violences sexuelles dans le cinéma français et l'entretien exceptionnel qu'a donné lundi soir en vidéo l'actrice Adèle Haenel, toujours à Mediapart, ont bouleversé celles et ceux qui s'étonnaient de ce que la France n'ait pas été davantage transformée par la vague du mouvement MeToo. Dans cet article, Adèle Haenel expliquait que si elle pouvait parler aujourd'hui, c'est parce qu'elle se sentait puissante socialement. Sa parole peut donc porter plus loin et avoir plus d'effet pour faire changer la société face aux violences sexuelles. C'est ce dont nous allons discuter pendant 40 minutes avec Marine Turki, journaliste à Mediapart, Océane Perona, maîtresse de conférences en sociologie à l'université d'Aix-Marseille, chercheuse au LAMES. Votre thèse portait sur les enquêtes policières dans les affaires de violences sexuelles. Sandrine Rousseau est également avec nous, elle est économiste, présidente de l'association Parler et vice-présidente de l'université de Lille. Et Manon Garcia est avec nous au téléphone depuis les États-Unis, car elle est chercheuse à la Society of Fellows de Harvard.
En fait, aujourd'hui, c'est une responsabilité pour moi. Parce que je suis en mesure de le faire, parce que voilà, je travaille suffisamment, j'ai des projets dans la vie, j'ai un confort matériel, j'ai, je sais pas, des alliances qui font que je suis pas dans la même précarité que la plupart des gens à qui ça arrive. Et je voulais juste le faire, en fait, si vous voulez, c'est même pas... C'est pour leur parler à elles et à eux, en fait. Pour dire qu'ils sont pas tout seuls, quoi.
Voilà, c'est ce que disait lundi soir à Mediapart dans un live, comme on dit en journalisme, tout à fait touchant, émouvant et très fort, ce que disait l'actrice Adèle Haenel justement de son rôle, pourquoi elle parlait elle et pourquoi d'une certaine façon il fallait qu'elle porte cette parole pour d'autres qui n'avaient pas la parole. Marine Turki, vous êtes avec nous depuis le siège de Mediapart à Paris, bonsoir.
Bonsoir.
J'imagine que ce sur quoi vous avez enquêté a provoqué une sorte de tempête et peut-être même une tempête de déclarations. C'est-à-dire, il est possible qu'aujourd'hui, après la sidération de ce témoignage d'Adèle Haenel, eh bien, beaucoup de femmes puissent porter leur parole parce qu'elle a ouvert quelque chose.
Ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que depuis cet article de dimanche soir, on reçoit un très, très grand nombre de réactions par mail sur les réseaux sociaux, enfin beaucoup de réactions adressées à Mediapart et beaucoup de femmes et d'hommes victimes de violences sexuelles qui témoignent, et pas seulement dans le cinéma, mais plus largement dans tous les secteurs professionnels, dans tous les secteurs de la société. C'est quelque chose que je n'ai jamais eu, moi, après un article que j'ai pu publier sur les violences sexuelles.
Et pourtant, vous en publiez depuis un certain temps, c'est votre domaine, après avoir travaillé sur le Front National à Mediapart, vous vous êtes attaché justement à sortir cette parole, à sortir des enquêtes sur cette question des violences sexuelles, en particulier dans le cinéma. Mais ce témoignage d'Adèle Haenel, pourquoi est-il différent de ceux que vous avez recueillis et peut-être transcrits dans vos propres articles, Marine Turki?
Il y a plusieurs éléments. Il y a déjà la force de son témoignage qui est extrêmement précis, documenté, circonstancié. Et puis il y a aussi la force des autres témoignages dans l'enquête. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent de manière très ouverte dans cette enquête. J'ai sollicité 36 personnes, il y en a 23 qui sont citées dans l'article. Tout le monde parle à visage découvert, et ça, c'est la première fois aujourd'hui que nous, on a ça. Je crois que c'est la première fois tout court qu'il y a ça, parce que souvent, il y a des témoignages qui sont anonymes. Là, tout le monde parle ouvertement. Donc, c'est déjà un premier signal. Et puis, surtout, il y a des documents. C'est pas tous les jours qu'on a effectivement des documents dans ces affaires. En tout cas, moi, je défends que ce ne sont pas des paroles contre paroles, comme on le dit souvent dans ces affaires de violences sexuelles. On peut, nous, dans nos enquêtes journalistiques, amener un certain nombre d'éléments qui peuvent confirmer des éléments du témoignage de la victime ou qui peuvent le contextualiser ou le renforcer. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on a. On a notamment les aveux qu'aurait fait Christophe Ruggia lui-même, le réalisateur, à une de ses ex-compagnes sur une scène qui est décrite justement avec Adèle Haenel. Tout ça, c'est dans l'article. Je pense aussi que ça participe de la force de tout cela. Après, il y a évidemment la force d'Adèle Haenel elle-même qui a une parole qui est bien au-delà de son cas.
Alors, les aveux, effectivement, qui sont contestés par Christophe Ruggia, puisqu'il vous a adressé un droit de réponse avec son avocat. Il considère effectivement que, à la fois, la parole d'Adèle Haenel a été trop loin et qu'elle ne correspond pas à la réalité de ce qu'il a vécu. Il faut le mentionner, effectivement, dans une affaire comme celle-ci.
Tout à fait, mais il reconnaît une emprise. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans cette longue lettre, il reconnaît cette fois-ci, il ne l'avait pas fait dans la lettre qui nous a adressée la semaine dernière, il reconnaît une emprise et une erreur. et lui demande de lui pardonner. Mais effectivement, il conteste les attouchements et le harcèlement sexuel.
Cela fait partie, vous dites qu'une sorte de boîte de Pandore a été ouverte par votre enquête et par ce témoignage d'Adèle Haenel. Est-ce que vous pensez que d'un seul coup, puisqu'on dit c'est peut-être un deuxième temps du mouvement MeToo, mais on est un peu étonné, on se demande même s'il y a eu un premier temps du mouvement MeToo en France en tous les cas?
Alors, ce que m'ont dit beaucoup de gens dans l'autre enquête qu'on a publiée dimanche sur les violences sexuelles dans le cinéma, j'ai interrogé un grand nombre de producteurs, productrices, réalisateurs, directeurs de casting, comédiens, ce que tout le monde me dit, c'est que MeToo en France a été très taiseux par rapport aux États-Unis il y a 2 ans, et que tous les gens dans mon enquête se sont un petit peu m'ont parlé quand même d'une omerta qui persistait dans le cinéma sur les violences sexuelles et sexistes, la difficulté d'alerter quand il y a des problèmes sur les plateaux, la difficulté aussi d'être entendu, parce que c'est surtout ça qui doit se libérer en France, c'est l'écoute et non pas la parole, puisque ça fait des années que les femmes et les hommes qui sont victimes de violences sexuelles parlent, simplement la société ne les entend pas toujours, et c'est ce que montre aussi mon enquête sur Adèle Haenel. C'est-à-dire qu'en fait, elle a parlé déjà depuis longtemps, pas publiquement, mais à plusieurs personnes, et puis il y avait des alertes aussi qui étaient lancées déjà sur le tournage de l'époque, Les Diables, réalisé par Christophe Rougia. Donc, si vous voulez, c'est tout ça qu'il faut entendre aujourd'hui. Je pense qu'il est trop tôt pour voir la portée de ce témoignage et de tout cela, parce qu'on est à quelques jours, mais je pense qu'en tout cas, c'est un témoignage qui fera date, parce qu'il n'a pas seulement parlé d'Adèle Haenel et de Christophe Rougia, il a parlé bien plus largement. Voilà, ce qu'elle dit, elle, c'est que pour que ça s'arrête, il faut parler, et c'est ce qu'elle a souhaité faire aujourd'hui.
Et d'ailleurs, demain, les matins de France Culture seront consacrés à ce témoignage d'Adèle Haenel et ce que cela peut dire du cinéma français, avec entre autres Julie Gayet, Valence Borgia et Antoine Guillot. Sandrine Rousseau, vous êtes avec nous, vous avez écrit un livre qui s'appelle Parler, et vous avez aussi créé une association qui croît à très grande vitesse sur le territoire français, qui s'appelle Parler, et qui s'intéresse justement au recueil de témoignages de femmes et d'hommes d'ailleurs, qui ont vécu des violences sexuelles.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Une des choses que je remarque dans le témoignage d'Adèle Haenel, et surtout dans la manière dont on reprend ce témoignage, c'est qu'on a moins affaire à du conditionnel, ce que nous, quand on est sorti sur l'affaire Baupin, par Mediapart aussi d'ailleurs, et je remercie ce journal de ne rien lâcher sur cette question. Mais
il faut rappeler effectivement que vous étiez donc une des actrices de cette affaire de Denis Baupin, il y a un peu plus de deux ans.
Et quand nous on est sortis, toute la presse reprenait avec du conditionnel, c'est-à-dire elle serait victime. Et là, je constate que d'Adèle Haenel, on ne dit plus ça. Et à chaque fois que on élimine dans les éléments de langage des éléments qui mettent une suspicion sur les faits, on progresse dans la considération et dans la reconnaissance des violences sexuelles. Donc là, bravo et merci à Adèle Haenel.
Et puis, elle dit aussi qu'elle est là pour, entre guillemets, protéger ses sœurs.
C'est comment dire, la condition même de la parole, là, dans ma situation. Parce qu'il ne s'agit pas de lynchage, en fait. Hein. Mais si on regarde les choses, quand les femmes, quand les filles qui portent plainte ou qui dénoncent des faits sont moins connues, on dit « Ah, elle voulait du travail !» ou « Elle a bien cherché, elle demande pour se faire mousser, etc. » On dénigre leurs paroles. Quelle violence! Je veux dire, moi, là, aujourd'hui, je sais ce que c'est de venir. Moi, j'ai rien à gagner, là, ce soir, en fait. Si ce n'est le fait de dire que je crois dans les humains. Je sais pas comment dire, c'est aussi con que ça. Je crois dans l'humanité, je crois dans le réveil possible. Et c'est pour ça que je parle. Je parle pas parce que j'ai un intérêt de carrière derrière. Je parle juste par humanisme, en fait. Donc c'est pour dire que la parole des victimes, quand elles sont encore des victimes, est considérée, méprisée. Et c'est pour ça que moi, je parle. Et je suis, quelque part, désolée pour Christophe Rougia, que ça lui tombe dessus. Mais genre, si moi, là, je me dis, je peux abriter mes sœurs, en fait, qui sont tellement plus précaires. Donc voilà pourquoi je prends la parole et pourquoi il était nécessaire que je sois plus connue que finalement mon agresseur, quoi.
Sandrine Rousseau, puis ensuite Océane Perrona. C'est important, justement, ce statut de la parole, c'est-à-dire le statut qu'a celui ou qu'a celle qui parle, c'est-à-dire un statut social plus élevé, qui lui permet justement de dire des choses plus fortes peut-être, ou plus entendues par les médias aussi peut-être, ou par les gouvernants.
Les violences sexuelles, c'est un abus de pouvoir. C'est-à-dire, c'est un rapport de pouvoir et c'est un abus de ce pouvoir. Et donc, évidemment que quand on est encore en deçà et quand on subit le pouvoir, c'est beaucoup plus difficile de parler que quand on est en situation de pouvoir être indépendante. Et d'ailleurs, tous les témoignages que j'ai relus depuis hier disent ça, c'est-à-dire que toutes les femmes qui ont parlé, y compris dans le cadre de MeToo, disent « mais je suis sortie de cette entreprise, maintenant j'ai quitté le domicile familial et le fait de ne plus être sous cette emprise permet de parler plus sereinement ». Après, là, ce qui en France, il n'y a jamais eu d'hommes un peu connus qui aient été condamnés pour violence sexuelle. Finalement, le seul qui a subi une condamnation, c'est Denis Baupin pour procédure abusive, mais pas pour les faits pour lesquels on avait parlé. Et donc, on a quand même un sujet en France autour des personnes célèbres, reconnues de pouvoir, qui n'arrive pas, enfin la justice n'arrive pas à les faire comparaître dans un tribunal pour qu'ils rendent compte de ce qu'ils ont fait. Et donc, je pense que là, quelque part, quelque chose est en train de basculer de ce point de vue-là, c'est-à-dire que on n'est pas parole contre parole, on n'est pas parole d'impuissant contre parole d'une personne en fragilité parce que souffrante, on reprend le pouvoir face à ces personnes qui sont des auteurs de violences sexuelles.
Océane Perrona, vous êtes avec nous depuis les studios de France Bleu Provence à Aix-Marseille. Vous êtes maîtresse de conférences en sociologie et votre thèse portait sur les enquêtes policières sur les affaires de violences sexuelles. On sait par les excellentes statistiques qui nous sont fournies généralement par des très bons centres de recherche autour du ministère de la Justice en particulier que effectivement, par exemple, les victimes ne se déplacent pas, pensant souvent, disent-elles, que cela n'aurait servi à rien, que ensuite, une fois que l'on se déplace, eh bien, on n'est pas forcément très bien accueilli dans les centres de police où on doit recueillir votre plainte. Et tout cela fait partie, effectivement, du long chemin que l'on doit parcourir lorsqu'on a été victime de violences sexuelles et qu'il faut faire reconnaître à la société, par ses institutions, ces questions-là, Océane Perrona.
Oui. Effectivement, alors moi je ne vais pas pouvoir vous parler de l'accueil parce que moi j'ai travaillé sur les services de police qui sont des services spécialisés, donc je vais parler de ce qui arrive une fois que vous avez franchi la première étape de l'accueil en commissariat, mais en fait même une fois que vous avez franchi la porte des services spécialisés, la procédure judiciaire reste une procédure éprouvante. Elle peut s'apparenter parfois à une mise à l'épreuve émotionnelle des victimes, puisque vous avez, on va vous demander de vous montrer docile face à toutes les demandes des enquêteurs. Vous devez vous montrer transparente, donc répondre à toutes leurs questions, qui peuvent parfois paraître très intrusives, même quand elles sont justifiées dans le cadre de l'enquête. Vous allez être ensuite confronté à la personne que vous accusez, et ça aussi, c'est une épreuve, et c'est d'autant plus le cas de la confrontation, c'est d'autant plus une épreuve que les policiers et les magistrats que j'ai rencontrés expliquent que c'est rarement un acte d'enquête qui va faire basculer l'issue d'une affaire. C'est rarement un acte d'enquête qui fait basculer l'issue d'une affaire et en même temps, refuser une confrontation avec son agresseur, eh bien, c'est quelque chose qui peut être interprété en défaveur de la plaignante.
Et puis, les enquêtes durent en général 24 mois en moyenne, dit-on en France, c'est cela à peu près ?
Oui, le délai, le temps d'une enquête dure très long entre les enquêtes de flagrance, puis les enquêtes préliminaires, puis ensuite le temps d'instruction. Vous allez passer plusieurs années avant que votre affaire arrive au tribunal, si jamais elle arrive au tribunal. Et si c'est possible, j'aimerais réagir aussi à ce qu'a dit Adèle Haenel quand elle parlait de la question de sa position sociale, elle a dit quelque chose d'intéressant aussi dans l'interview qu'elle a donnée à Mediapart, c'est que elle rappelle que elle est puissante, mais elle est puissante notamment comparée à Christophe Ruggia.
Oui, c'est-à-dire qu'elle est plus puissante que celui qui a commis les actes sur elle-même lorsqu'elle était très jeune.
Exactement. Et en fait, ça me semble important de rappeler que dans les affaires de violences sexuelles, les policiers et puis les magistrats, ils jugent pas uniquement une plaignante. Tout ne dépend pas du statut de la plaignante. C'est toujours, si vous voulez, c'est toujours un jugement qui est porté sur un binôme, c'est-à-dire un jugement qui est porté sur une plaignante par rapport à un mis en cause.
Manon Garcia, vous êtes avec nous depuis Harvard où vous enseignez, vous êtes philosophe, chercheuse à la Société of Fellows de Harvard et vous avez écrit l'année dernière « On ne n'est pas soumise, on le devient ». Vous vous intéressez à la question de la zone grise du consentement. J'imagine que le témoignage d'Adèle Haenel vous a également intéressé dans ce qu'elle disait sur le temps qui était nécessaire pour pouvoir sortir de l'emprise, pour pouvoir accepter même qu'on avait été pris par son agresseur et donc que sortir de ce moment-là, cela vous intéresse considérablement en tant que philosophe, j'imagine, Manon Garcia.
Oui, évidemment, bonsoir. C'est vrai que pour moi, ce qui est très intéressant dans cette histoire, c'est aussi comment on établit le consentement ou le non-consentement. Et en fait, c'est là l'immense force de l'enquête de Mediapart, c'est que en ayant ces 36 personnes qui parlent à visage découvert, en ayant ces sources écrites, ils sont en capacité de mettre, enfin Marine Turquie est en capacité de mettre en cause cette espèce de vision des accusations de violence sexuelle comme étant parole contre parole. Et c'est vrai qu'on ne lit pas du tout le démenti de Christophe Ruggia de la même façon aujourd'hui qu'on a lu beaucoup de démentis. C'est-à-dire qu'on a envie de lui dire, bon, en fait, là, il y a 36 personnes plus des sources écrites. Comme disait Sandrine Rousseau, on n'utilise plus le conditionnel. Donc ça, c'est très intéressant sur ce que c'est que le consentement, comment on fait reconnaître un consentement ou une absence de consentement. Et ça montre, d'une certaine manière, les limites de la justice qui sont des limites pour des raisons politiques. C'est-à-dire que, comme disait...
Vous voulez dire que la justice est trop patriarcale, comme certains l'ont dit justement à cette occasion ?
En tout cas, c'est ce que dit Adèle Haenel, et je pense que c'est la raison pour laquelle la réaction de Nicole Belloubet, la ministre de la Justice, a été si mise en cause. C'est que Adèle Haenel, elle montre qu'en fait... Mediapart est plus capable de faire une enquête sur ce qui s'est passé que le système judiciaire, ou en tout cas peut-être parce que le temps de la justice permet ça. Mais moi, ce que je voulais aussi, comme Océane Perona, revenir sur cette question de la puissance, puisque c'est le thème de cette émission, et je pense qu'en effet, il faut voir la dimension très politique de ce que fait Adèle Haenel, c'est-à-dire que d'une part, elle s'inscrit quand même dans un mouvement féministe de longue durée en disant, voilà, ben, mon personnel est politique, ce qui est quand même le grand slogan du féminisme.
Depuis les années 70 au moins, oui.
Voilà, depuis les années 70 au moins, mais elle montre aussi que elle est peut-être la seule aujourd'hui en France, enfin, elles sont très peu nombreuses, les femmes qui peuvent porter une voix aussi claire. Adèle Haenel, personne ne peut arrêter de l'inviter. Personne ne peut arrêter de la faire tourner. C'est l'actrice peut-être la plus bankable en ce moment. Alors que ce qu'on voit quand même, c'est que Christophe Ruggia, il n'est pas du tout bankable, mais j'utilise le vocabulaire du monde du cinéma justement sur ces questions-là. Mais ce qu'on voit, c'est que quand même, par exemple, Frédéric Bonneau, qui est à la tête de la Cinémathèque française, a pris très fortement position pour Roman Polanski, pour toute une série d'hommes mis en cause.
Il n'est pas le seul, d'ailleurs, autour de Roman Polanski.
Bien sûr, mais sauf que c'est le directeur de la Cinémathèque française. Donc vous imaginez bien qu'il n'y a que Adèle Haenel qui peut se permettre de dire à la Cinémathèque française, si vous ne montrez plus mes films, les films dans lesquels je joue, ça vous regarde, mais ça va faire de la Cinémathèque française un endroit ridicule. Alors que toutes les autres femmes, parce que, je veux dire, Marine Turquie, elle a aussi montré ce qui se passe avec Luc Besson en ce moment. Gérard Depardieu a été mis en cause. Il y a beaucoup d'hommes qui sont mis en cause. Et le monde du cinéma français, moi, j'y ai grandi pour des raisons personnelles, mais c'est quand même... Toutes les femmes ne parlent que de ça, de quel homme il faut se méfier, avec qui on ne peut pas être dans une pièce toute seule, etc. Et là, il y a un différentiel de pouvoir qui permet à Adèle Haenel de prendre la parole, mais il va falloir trouver des solutions pour que ce ne soit pas que quand on est la plus grande actrice du moment qu'on puisse parler.
C'est la question. Sandrine Rousseau voulait prendre la parole, et puis Océane Perona.
Oui, sur la justice, je voulais revenir sur la justice, parce que ce qu'on entend le plus parmi les femmes qui sont victimes de violences sexuelles, mais aussi parmi les hommes, c'est la peur. Elles ont peur d'aller en justice. Et je me dis que quand on a peur d'aller en justice, c'est que la justice protège les dominants. Sinon, la justice est là pour protéger les faibles. Et en matière de violences sexuelles, ça n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on constate que tout profite à l'accusé, en fait. Tout. Et quand on parle de la présomption d'innocence, elle a un dos extrêmement large, la présomption d'innocence, parce que tout petit détail dans l'enquête peut favoriser l'agresseur. Et par ailleurs, les enquêtes ne sont pas menées. Et c'est en ça que le travail de Mediapart est très fort. C'est qu'il a permis de montrer que dans des violences sexuelles, même quand ça ne s'est pas passé sous des caméras de surveillance ou en présence de témoins, eh bien, il y a tout un tas de preuves qu'on qualifie de preuves indirectes qui peuvent être collectées pour prouver les faits, même quand on n'a pas assisté aux faits ou quand on n'a pas les preuves factuelles de ces faits. Et ça, c'est vraiment très important en matière de justice. Je pense que parmi les évolutions que doit faire la justice sur les violences sexuelles, il y a ça, il y a cette collecte de preuves indirectes, et puis il y a aussi la définition du consentement, puisque en France, la loi dit que les femmes sont a priori consentantes et qu'il faut donc vérifier qu'elles n'étaient pas consentantes par l'emprise, la menace ou la violence. En Suède, par exemple, on parle de rapport sexuel qui doit être librement consenti, ce qui n'est pas du tout pareil parce qu'on n'a pas à qualifier l'emprise, la menace ou la violence. Et là, on voit bien que si on parlait de rapport librement consenti, on aurait zéro problème à prouver l'absence de liberté dans le consentement.
Il faut rappeler effectivement à nos auditeurs que Sandrine Rousseau, que le parquet a ouvert une enquête justement pour agression sexuelle sur ces révélations de Marine Turki et de Adèle Haenel. Océane Perona et Marine Turki. Océane Perona.
Oui, je voulais revenir sur la question de l'action de la justice pénale dans les affaires de viol. Je pense que, en tout cas, la réaction d'Adèle Haenel et son refus de s'adresser à la justice, c'est quelque chose qui est très révélateur d'un problème qu'a la justice pénale. C'est la justice pénale juge des cas individuels. Dans quelle mesure est-ce qu'elle peut être utilisée pour renverser des rapports de pouvoir et des rapports sociaux? Parce qu'elle ne juge pas des groupes, elle juge des individus. Donc ça, c'est un problème sur lequel la justice pénale bute.
Mais il y a bien un corpus de pensée, un corpus législatif autour, derrière les jugements individuels, c'est-à-dire une pensée globale. Et c'est là où certains disent que cette justice est trop patriarcale, par exemple.
Oui, c'est vrai, il y a plein de débats parmi des juristes sur le droit, la manière de bien définir le viol dans la loi pénale pour que il puisse être bien réprimé. La question de l'intégration, même la question de la mention du consentement, elle fait aussi débat au sein de la théorie féministe du droit. Mais je voulais aussi revenir sur, je voulais juste rappeler que même si l'action de la justice pénale dans les affaires de viol, elle reste très perfectible. En 2015, la moitié des affaires qui sont jugées aux assises, c'est des affaires de viol. Donc, les violences sexuelles sont une matière qui occupe beaucoup la justice pénale et à minima les juridictions. Les juridictions d'assises.
Marine Turki, je vous redonnerai la parole ensuite, Océane Perona. Marine Turki.
Oui, je voulais rebondir, pardonnez-moi, sur
ce
qui concerne la puissance. Moi, ce que j'ai constaté dans cette enquête par rapport aux autres enquêtes que j'ai menées, notamment dans le monde du cinéma, c'est que personne dans cette enquête, à l'exception de Christophe Rougia, évidemment, ne m'a dit « Adèle Haenel, elle ment ». Adèle Haenel, elle dit n'importe quoi, ou on pense qu'elle dit ça parce que telle raison. Ce que j'entends dans les autres enquêtes, j'ai enquêté pendant des mois sur Luc Besson, j'ai entendu « Ah, mais telle femme dit ça parce qu'en fait, elle n'a pas eu le rôle », ou « telle femme dit ça parce qu'elle veut de la publicité ou se faire mousser ». Et ça, on l'entend beaucoup, c'est-à-dire que c'est une sorte de présomption de mensonge qui pèse beaucoup sur les femmes qui prennent la parole. Là, je ne l'ai pas eu, et ça m'a interpellée. Je me suis dit que c'était évidemment dû, en premier lieu, à la puissance aujourd'hui d'Adèle Haenel. Mais ça m'a beaucoup questionné, si vous voulez. Et c'est évident que le deuxième facteur, c'est effectivement le statut de Christophe Rougia. Il est peu connu, il est moins puissant, par exemple, que Luc Besson. D'ailleurs, il aurait été, s'il était plus puissant, au courant de mon enquête, je pense assez vite. Peut-être qu'il aurait tenté d'entraver cette enquête ou de réagir, de mener une contre-attaque. Vous voyez, ce genre de choses que moi j'ai vu dans d'autres enquêtes. Aujourd'hui, je n'ai pas du tout vu ça. Mais ce que je veux vous dire aussi, c'est que j'ai fait sur cette enquête ce que j'ai fait. Qu'on a fait à Mediapart sur l'affaire Luc Besson. J'ai travaillé pendant des mois sur Luc Besson, on avait travaillé pendant quasiment un an à plusieurs personnes, on avait publié beaucoup de témoignages, il y avait aussi des documents, il y avait des choses, et pourtant, cette enquête a eu zéro résonance médiatique, et d'ailleurs, à Arrêt sur Image, j'avais fait un article pour l'expliquer, ce silence qui a entouré l'affaire Luc Besson. Je me souviens avoir, en janvier, demandé des réactions dans le monde du cinéma français à cette affaire. Il y avait quand même 9 femmes qui témoignaient, et puis beaucoup d'autres témoins, hein. Donc au total, ça s'est beaucoup de gens. Et la réponse était non, mais je vois pas pourquoi j'aurais à commenter ça. C'est la justice qui fera son travail, etc. Aujourd'hui, les mêmes acteurs qui m'ont répondu ça il y a 8 mois postent des photos d'Adèle Haenel sur les réseaux sociaux et la défendent. Donc, si vous voulez, ça m'interpelle. Est-ce que ça dénote d'un changement de mentalité ou est-ce que c'est parce que elle est connue? C'est une vraie question que je me pose. En tout cas, notre enquête sur Luc Besson, elle n'était pas moins efficace que celle qu'on a publiée sur Christophe Ruggia.
Qui a eu effectivement beaucoup plus d'écho médiatique depuis dimanche que celle sur Luc Besson. Vous l'avez noté. Manon Garcia, vous vouliez réagir?
Oui, je voulais dire deux choses. Premièrement, je pense pas du tout qu'il y ait une fatalité quant au fait que la justice pénale puisse ou non prendre en charge ces questions-là. Je pense que simplement c'est une question politique avant d'être une question juridique, et que c'est en ces termes que Adèle Haenel a posé le problème quand elle dit que ce qu'il faut, c'est ouvrir une discussion. Et moi, je pense que c'est aussi intéressant parce que en arrière-plan, ce qui est là aussi, c'est de dire le but des femmes qui parlent pour MeToo, c'est pas juste d'envoyer tout le monde en prison. En fait, parce qu'on a cette espèce d'idée que du coup, il faudrait que tous les accusés de viol aillent en prison. Et il y a beaucoup de gens qui questionnent ça dans la théorie féministe contemporaine, qui est de dire comment on fait pour poser cette question des violences sexuelles et lutter contre les violences sexuelles sans penser qu'il faut envoyer tout le monde en prison.
Oui, donc ça, je pense que c'est très fort.
C'est très intéressant ce que dit Adèle Haenel sur la dimension vraiment politique. Et la deuxième question, c'est que je pense qu'un élément pour comprendre aussi la façon dont la parole d'Adèle Haenel n'est pas remise en cause et dont on parle très peu, et je trouve ça très étonnant, c'est qu'Adèle Haenel, elle est quand même lesbienne, et tout le monde le sait. Et que du coup, elle, non seulement elle est lesbienne, mais en plus, elle fait partie de ces femmes qui ne surjouent pas la féminité, et c'est très rare chez les actrices. Et donc, on a moins cette idée, comme tout le monde sait qu'elle est lesbienne, comme elle joue pas la femme enfant et qu'on a l'impression qu'elle a pas besoin de ça pour se vendre. On voit en fait en arrière-plan les stéréotypes de genre qui jouent. Elle n'est pas la femme typique, elle n'est pas la femme actrice typique. Donc on se dit pas. Elle a tout fait pour qu'il lui saute dessus. Elle devait être aguicheuse, etc. Parce qu'elle est par définition la femme pas aguicheuse. Et c'est pour ça, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y avait une dépêche de l'AFP aujourd'hui qui la décrivait comme une jolie blonde au caractère affirmé. Enfin, un truc. Et sur Adèle Haenel, ça nous choque encore plus que si on fait ça sur, je sais pas, Isabelle Huppert ou des femmes qui apparaissent vraiment comme des femmes désirables pour des hommes, ou en tout cas qui s'occupent d'être désirées par des hommes.
Sur cette question, Sandrine Rousseau, quand on dit c'est une affaire politique, comme le dit Manon Garcia, c'est vrai que quand Adèle Haenel dit dans son entretien « c'est possible de faire autrement société », c'est bien aussi pour les bourreaux, dit-elle, et ça, on pourrait faire une belle société. Effectivement, c'est ça va bien au-delà dans la pensée globale simplement une volonté de poursuivre son agresseur en justice, etc. Mais vous pensez, vous, que la question sur laquelle vous n'êtes pas forcément d'accord avec Adèle Haenel, c'est justement cette question de la justice?
Mais je trouve que je ne sais pas comment l'exprimer, mais dans ce que dit Adèle Haenel, elle dit « je parle pour les autres ». Et je parle pour celles qui n'ont rien, pour celles qui n'ont pas de voix, pour celles qui n'ont pas de micro, pour celles qui ne peuvent rien. Et finalement, celles qui n'ont pas de micro, celles qui ne peuvent rien, qu'est-ce qu'elles ont comme recours? Le seul recours qu'elles ont, c'est la justice. Et c'est en ça que, moi, je trouve que quand on a la parole publique, quand on a justement ce pouvoir, quand on est Adèle Haenel, ou quand nous, par exemple, on était plusieurs à pouvoir parler ensemble, eh bien, je trouve qu'on a aussi une forme de responsabilité, dans l'affaire Baupin, on a aussi une forme de responsabilité à aller ouvrir des voies de justice pour les autres. Par exemple, dans l'affaire Baupin, c'est la première fois qu'il y avait une condamnation pour procédure abusive. Ça fait jurisprudence. C'est-à-dire que maintenant, ça va être utilisé pour d'autres violeurs qui voudraient, ou d'autres agresseurs qui voudraient déposer plainte en diffamation. Eh bien, ils savent qu'ils risquent une condamnation en procédure abusive. Et ça, c'est vraiment des choses que, à mon sens, pour mener le combat jusqu'au bout. Et j'entends bien que la justice, ça n'est pas un lieu de combat politique, c'est un lieu de jugement de cas. Mais aujourd'hui, la force de ce mouvement des femmes, c'est justement de pouvoir y aller ensemble, nombreuses, et de dire maintenant vous êtes obligées de regarder et de juger nos affaires correctement.
Et d'ailleurs, dans ces groupes qui sont constitués autour de cette association Parler, dont vous êtes la présidente et que vous avez créée, Sandrine Rousseau, vous, au bout du compte, une fois que les femmes commencent à parler entre elles vont en justice ?
Je suis très surprise du nombre de femmes qui finissent par aller en justice après plusieurs réunions parlées. Et j'ai même vu des femmes dont les affaires étaient prescrites depuis plusieurs années, qui ont écrit au procureur, qui ont été convoquées par lui parce que, rappelons-le, mais un homme qui fait ça le fait plusieurs fois, c'est-à-dire qu'il a un mode opératoire. Et donc elles ont été convoquées par le procureur pour livrer leur témoignage et pour accréditer d'autres enquêtes. Et ça, c'est une libération pour les femmes. Mais moi, je voudrais qu'on prenne des photos de ces femmes avant et après pour montrer à quel point elles ont revécu, ou du moins vécu une autre étape de leur vie grâce à ces procédures.
Oui. Océane Perrona.
Oui, je voulais réagir notamment à propos de Sandrine Rousseau. Je suis parfaitement d'accord avec l'idée que la justice pénale, ça peut être le seul recours ça peut être le seul recours des plus faibles. Et d'ailleurs, j'ai étudié un échantillon d'environ 500 procédures dans le service de police judiciaire dans lequel j'ai enquêté. Et en fait, les catégories supérieures sont sous-représentées. Les catégories qui sont surreprésentées, donc qui sont beaucoup plus nombreuses, ça va être les personnes, les femmes qui parmi les victimes, ça va être les femmes qui sont sans emploi, les employés, mais en revanche, celles qui vont être sous-représentées, qu'on va trouver beaucoup moins souvent, c'est les cadres. Parce que les cadres n'utilisent pas la justice pénale.
C'est-à-dire, quels sont les autres moyens, justement, pour une cadre qui se trouve dans cette situation d'agression sexuelle, de faire reconnaître, justement, ce qui lui est arrivé, si elle n'utilise pas la justice pénale?
Eh ben, elle va peut-être avoir accès, à une aide psychologique, par exemple. On peut imaginer qu'elle va trouver de l'écoute là-bas. Peut-être que professionnellement, elle a aussi plus de moyens pour se sortir d'une situation qui est dangereuse pour elle par ses propres moyens. Il y a moins de dépendance, qu'elles ont peut-être aussi moins de dépendance économique vis-à-vis de leur conjoint, donc elles ont plus de facilité à partir. Enfin, on peut, pour l'instant, ça c'est évidemment c'est des suppositions, mais ça peut être des pistes d'explication. Elles sont plus autonomes et indépendantes et donc elles vont avoir moins besoin peut-être de faire appel à la justice. La deuxième chose que j'aimerais ajouter, c'est toujours sur la question de la puissance. En fait, le statut social des plaignantes, en tout cas, c'est pas ce qui va expliquer le traitement judiciaire de l'affaire. Une fois que l'affaire roule et qu'elle est traitée par les services spécialisés, vous n'allez pas avoir plus de classement. Vous n'allez pas avoir, par exemple, plus de classement sans suite si vous êtes sans emploi ou si vous êtes employé. Ce qui va déterminer la probabilité que l'affaire soit classée sans suite, c'est la relation que vous avez avec le mis en cause. Et si vous connaissez le mis en cause, et plus encore si vous êtes sa compagne ou son ex-compagne ou son amante ou une partenaire sexuelle occasionnelle, là vous avez beaucoup plus de chances que l'affaire soit classée sans suite que si la personne que vous mettez en cause est un parfait inconnu pour vous. Et ça va jouer quel que soit votre statut social.
Manon Garcia,
en tant que plaignante.
Manon Garcia, vous nous écoutez depuis les États-Unis. Ce qui est très intéressant dans ce que dit aussi Adèle Haenel dans son témoignage à Mediapart, c'est qu'elle dit que les agresseurs peuvent se raconter toute une histoire romantique au sujet d'un truc qui n'est pas du romantisme, au sujet d'une oppression, dit-elle. C'est-à-dire, c'est effectivement toute la trame mentale, pourrait-on dire, tout l'imaginaire social qu'elle remet en cause en disant, si on se raconte ces histoires et si les agresseurs se racontent ces histoires, c'est parce qu'ils se racontent une histoire qu'ils se sont inventée, mais qui leur a été transmise aussi par leur père, par leur mère, par leur cousine, par des récits qui, d'une certaine façon, sont des récits qui nourrissent nos imaginaires sociaux.
Oui, et je pense que, par exemple, le travail d'Iris Bray là-dessus est très intéressant.
Iris Bray qui intervenait aussi dans ce débat de Mediapart.
Voilà, dans le live Mediapart, et je pense que c'est vraiment intéressant de regarder aussi ce que dit Iris Bray, parce que ce qu'elle montre dans son travail et ce que d'autres ont montré, c'est la façon dont le cinéma, par exemple, nous conduit à avoir cette érotisation de la domination, cette idée que, en fait, souvent des rapports sexuels non consentis à écrans sont présentés comme vraiment le summum du romantisme. Moi, ça m'a fait cet effet-là dans mes enseignements. Je montre à bout de souffle à mes étudiants et je l'ai fait 2 ans de suite. À bout de souffle, aujourd'hui, c'est très compliqué parce que la présentation de l'amour qu'il y a entre les protagonistes, selon Jean-Luc Godard, est quand même faite d'agressions sexuelles et d'atteintes sexuelles.
Jean-Paul Belmondo et Jane Seberg, oui.
Voilà, et quand même, il y a cette scène où elle le repousse, et il lui met la main dans la culotte, et c'est quand même ça qu'on nous a montré comme étant l'amour avec un grand A, voilà, le cool du cool, quand même, à bout de souffle, c'était Belmondo, c'est vraiment le mec qui représente quelque chose de très fort, et sur là-dessus, et ensuite Hollywood a une responsabilité incroyable, voilà, toutes ces scènes de femmes qui sont plaquées contre un mur, qui se débattent et qui finalement tombent follement amoureuses ou ont l'air follement éprises de cet homme-là, et ça, je pense que Ada Lenel, elle le dit.
Excusez-moi, on arrive au terme de l'émission, je voudrais donner la parole encore un tout petit peu aux autres intervenantes. Excusez-moi, Manon Garcia. Sandrine Rousseau, brièvement.
Alors, il y a quand même des chercheurs, notamment Massil Ben Bourrich, qui est par exemple à l'Université de Lille, qui montrent que les agresseurs et les violeurs, au moment où ils violent et au moment où ils agressent, ils savent exactement, et exactement comme toute la population des autres hommes, déterminer les signes de non-consentement. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de trouble dans le fait que la personne n'est pas consentante en face. Ils savent exactement interpréter le fait que cette personne n'est pas consentante. Donc, ils choisissent délibérément de passer outre ce consentement. Donc, certes, on a un imaginaire qui est, à mon avis, un écran de fumée pour masquer les violences sexuelles, mais ceux qui commettent les violences sexuelles, je ne crois pas un instant qu'ils le fassent sans avoir une conscience aiguë de ce qu'ils sont en train de faire.
Marine Turki, brièvement.
Oui, je voulais rebondir sur la culture du viol. Il y a effectivement tout ça, toutes ces images qui sont véhiculées, mais il y a aussi les points de vue. Il y a très peu de points de vue, en fait, de victimes, de femmes aujourd'hui dans la littérature et dans les films encore. Lolita, c'est un très bon exemple. On a mis 70 ans à avoir le point de vue de Lolita dans un livre qui est sorti le mois dernier. Ça fait 70 ans qu'on n'avait que le point de vue de l'homme, de l'agresseur, justement. Donc c'est très intéressant, je trouve, et très révélateur. Et ça aussi, ça doit changer.
Merci à vous, Marine Turki. Merci également à Océlane Peruana et aux nos confrères de France Bleu Provence qui l'ont accueilli dans ses studios à Aix-Marseille. Je rappelle que votre thèse portait sur les enquêtes policières dans les affaires de violences sexuelles. Merci à Manon Garcia d'être avec nous, d'avoir été avec nous depuis les États-Unis où elle enseigne. Elle est chercheuse en philosophie à la Society of Fellows de Harvard. Et merci à vous, Marine Turki, ainsi qu'à Sandrine Rousseau, donc, d'être venue. Je pourrais conseiller également de regarder, pour ceux qui se trouvent sur les réseaux sociaux, le long poste de la spécialiste du genre qui est Laure Bérény sur justement cette question de la puissance ou pas de celles qui peuvent témoigner dans ces affaires de sexuelles. Et puis sachez que demain, eh bien, le témoignage d'Annel Haenel sera analysé pour la place qu'il prendra dans l'histoire du cinéma français avec notamment Julie Gayet, Valence Borgia et Antoine Guillot. Ça sera donc dans les matins de France Culture. Quant à vous, Arnaud Laporte, vous en parlerez demain, j'imagine.
Oui, on en parle dans la dispute cinéma parce que j'étais aussi très surpris que cette prise de parole d'Ada Lenel soit suivie, c'est le calendrier qui veut ça, par l'attribution du Renaud d'OSA à Eric Neuhoff pour un livre très cher cinéma français qui est, page après page, d'une misogynie, voire d'un appel douteux à certains comportements.
Merci, vous en parlerez demain dans la dispute. C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Rémi Bail, Fanny Richer, Hugo Boursier, Louise André à la vidéo, Swat Boukorza à la technique, Clément Daté avec nous à la réalisation, Anna Bui. Vous avez donné votre programme pour demain de la dispute, cher Arnaud Laporte, mais vous allez donner votre programme pour ce soir.
Oui, pour des prix littéraire, vraiment. Chaque année, on fait comme ça une spéciale prix d'automne. Donc, on va revenir sur les prix Goncourt, prix Renaudot, prix Femina, prix Médicis. Il y a du très bon, peut-être du moins bon. On va en parler dans 3 minutes 30. Le temps du débat demain, Emmanuel Laurentin.
Eh bien, nous allons changer vraiment de sujet puisque nous allons nous poser la question quasiment à l'anniversaire de la chute du mur de Berlin pour savoir si les Russes sont aujourd'hui les meilleurs stratèges, qu'ils soient stratèges dans leur espace géographique classique, c'est-à-dire toute la question de la Russie et de ses voisins, mais également au Proche-Orient ou encore en Afrique. Ce sera la question que nous poserons à nos invités de demain dans le temps du débat.
Merci pour ce sommaire en avance.